France Culture.
Le pays berceau du printemps arabe s'est mué en régime policier. Des opposants politiques sont arrêtés pour complot contre la sûreté de l'État ou adhésion à un groupe terroriste. Avocats, journalistes ou militants venant en aide aux migrants sont condamnés en vertu du décret 54 sur les fausses informations adopté en 2022. Siem Ben Sedrine s'était engagée dans la révolution de 2011 et elle a présidé la première institution de justice transitionnelle chargée de faire la lumière sur les violations des droits pendant la dictature de Ben Ali. Mais elle a ensuite vécu l'étouffement de la démocratie par ce nouveau régime. Elle dresse un bilan amer au micro de Christian Chesneau.
C'est une réalité de retour en arrière, même de retour en plus bas que le zéro où on était. C'est une nouvelle forme de dictature que nous sommes en train de vivre. Qu'est-ce qu'on a fait ? C'est que cette révolution qui était porteuse d'espoir et porteuse surtout d'opportunités, on les a perdues, ces opportunités. Et on les a perdues pas parce qu'on n'était pas capable, parce qu'on a montré que cette société, une fois que ce potentiel qui était caché, qui était bridé, a éclaté, cette société a produit des choses magnifiques, d'ailleurs sur tous les plans, pas simplement sur le volet politique ou social, même culturel. Les productions artistiques qui se sont déchaînées après la Révolution, c'était magnifique tout ça. La jeunesse, elle s'est énormément exprimée dans ce secteur. D'ailleurs maintenant, si on fait le lien, on verra quelle est la première cible de ce pouvoir. La première cible, ce n'est pas les politiques aujourd'hui, c'est les jeunes. Et si vous voyez le nombre de jeunes qui sont en prison aujourd'hui pour avoir justement fait une chanson rap où, bien entendu, on stigmatise le pouvoir et la police parce que leur ennemi juré, c'est la police. Parce que quand on est jeune, pour la police, on est en situation de délit. Et donc, il faut d'abord vous enfermer ou vous faire casser cet élan, ce désir de vivre. Tout ce potentiel que porte la vie, il faut d'abord vous casser. Et une fois qu'on vous a cassé, on est plus tranquille parce que ce qui fait le plus peur au système, c'est ce potentiel de richesse, de capacité d'éclater.
Peut-être de contestation.
À travers la contestation.
Qu'est-ce qui s'est passé pour expliquer qu'on parte d'une promesse? Une promesse d'avenir, d'horizon, de liberté, et qu'on arrive à un pays aujourd'hui qu'on sent cadenassé, on sent aussi une immense déprime, peut-être de la lassitude. Est-ce que c'est ça le sentiment aujourd'hui en Tunisie?
Oui, c'est un vrai désenchantement, c'est une dépression générale. Parce que si vous voyez l'hôpital psychiatrique, les médecins me disent qu'ils font 1000 consultations par jour externes. Donc c'est un pays psychiatrisé, c'est un pays qui a subi un traumatisme. Et ce traumatisme s'exprime dans la vie quotidienne des citoyens, parce que les gens ne comprennent pas ce qui leur arrive. Donc je reviens à ce que nous avons fait dans le cadre de la justice transitionnelle. La justice transitionnelle, elle devait accompagner ce renouveau en faisant une sorte de diagnostic de la dictature, le mode d'emploi de la dictature, et qu'est-ce qu'il faut ne plus refaire, et dans quel sens mettre les réformes pour justement garantir le non-retour. C'est ça en fait le cœur de cette justice transitionnelle. Et ce qui nous est arrivé, c'est, moi j'appelle ça une prise d'otage de l'architecture démocratique par les politiques, et notamment cette coalition diabolique entre le parti Nidé, Tunis, et le parti Nahda.
Donc c'était plutôt les laïcs et les islamiques. Comment on pourrait dire,
ils étaient laïcs, oui. Mais cette coalition diabolique, elle a pris en otage justement notre démocratie naissante et balbutiante, entre autres dans le Parlement, parce que c'était un régime qu'on avait ou non parlementaire. Et donc le Parlement, parce que c'est de là que sortaient les gouvernements, c'est de là que les lois étaient votées, etc. Et donc cette coalition, elle a bloqué le système, elle a pris en otage le système. Et elle a déroulé le tapis rouge vers ce qui nous est arrivé aujourd'hui, une dictature comme on n'en a jamais connue.
Alors justement, dans une démocratie, il y a ce qu'on appelle le pouvoir judiciaire, la justice. Aujourd'hui, la justice, est-ce qu'il y a une justice en Tunisie? Comment ça fonctionne? Vous avez été aussi victime de ça?
Oui, moi j'ai été emprisonnée pour l'ensemble de mon œuvre, hein, comme on dit. Parce que la vieille machine me reprochait justement d'avoir démantelé le système, traduit en justice les responsables, dont une bonne partie sont encore à la manœuvre.
Vous pensez que vous payez pour ça?
Oui, je paye pour ça. De toute façon, ils me l'ont dit, hein. Je paye pour ça. Et surtout, pour avoir proposé des réformes qui leur barrent la route. À la fois sur le plan de la construction démocratique institutionnelle et sur le plan économique et financier. Donc, comment on barre la route à la corruption? Parce que la corruption, elle est solidaire, elle est co-substantielle de la dictature. On ne fait pas une dictature pour le plaisir, on fait une dictature pour servir des intérêts.
Il a une capacité de projection, ce pouvoir?
Sa seule projection, c'est comment servir ses propres intérêts, comment garantir ses intérêts, comment verrouiller la société pour que ses intérêts soient protégés. Ce n'est pas l'ancien système, point à la ligne, c'est l'ancien système renouvelé.
2.0.
2.0, avec des outils adaptés au cyberespace, donc on gouverne autrement maintenant. Et surtout, c'est un système qui écrase tout ce qui bouge, tout ce qui vit.
Jusqu'à présent ménagé par les Européens, le pouvoir tunisien se montrerait-il moins inflexible si les pressions étaient plus fortes? Le 27 novembre, le Parlement européen a adopté une résolution sur l'état de droit, condamné la répression en Tunisie et protesté contre la détention de Sonia Damani. Le même jour, l'avocate était libérée. Nous reviendrons sur le combat de sa famille dans le prochain épisode.